Le petit monde musical de Françoise et Thérèse.
Bonjour, chers auditeurs. Bonjour Radio Albatros, bonjour Sarah, nous nous retrouvons avec grand plaisir pour vous parler de nos choix et des nouveautés musicales de ces derniers mois. Un premier choix, alors c'est un compositeur qui s'appelle Paris, en anglais I Was Glad, c'est le Gabrielli Consort and Players, l'orchestre, et c'est dirigé par Paul McCresch. An English Coronation, 1902-1953. Alors, dans ce CD, mais on retrouve des œuvres de Thalys, Elgar, que vous connaissez, d'autres compositeurs un peu moins connus, donc Paris, le Monchoir, Purcell, Vaughan, William, Handel, Bird, Wesley, Stanford, je vous dis tout pour que vous soyez intéressés, Walton et Matthews. Je pense que vous allez être complètement... Moi, j'étais éblouie, j'étais par cet extrait que j'ai choisi pour vous. Et peut-être en fonction de mes origines anglaises, je ne sais pas. Alors, on va partir, si vous voulez bien, en direction de Westminster Abbey pour le couronnement. Bon, écoutez, le couronnement de votre monarque préféré, pourquoi pas ? En traversant cette nef qui a été témoin des couronnements d'Édouard VII, George V, et bien sûr, Élisabeth II d'Angleterre, vous avez dû voir tout ça à la télévision, Élisabeth II d'Angleterre. Et c'est Paul, le chef d'orchestre, Paul McCresch, qui, s'inspirant du passé, ravive vraiment le luxe d'une liturgie unique par ses proportions dans l'Occident moderne, unique aussi par son caractère composite, ses chanteurs. Il y a 300 chanteurs, imaginez-vous, 300 chanteurs. Ils sont mis en scène de manière vivante et grandiloquente, avec les trompettes, avec l'orgue, avec les percussions. Alors tout ça, ça ajoute aux faces de cette interprétation très grandiose, alors pompeuse si vous voulez, mais je pense qu'on peut presque parler de musique d'opéra et de théâtre. Avec ces compositions qui étaient destinées, comme je vous l'ai dit, au couronnement des rois d'Angleterre, mais aussi antérieurement à de grands événements historiques. On va parler un petit peu du compositeur qui est Sir Charles Hubert Hastings Parry. Il est né à Bournemouth 1848-1918. Il a fait des études à Oxford en 1883, mais c'est un compositeur anglais, bien sûr. Et il devient chef de chœur de l'université d'Oxford. Il dirige le Royal Concert de Musique. Et on peut dire que c'est une personnalité influente du début du XXe siècle qui fut anoblie en 1898. Alors vous allez écouter ce superbe concert que j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi.
Thank you.
Voilà, c'est superbe, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a convaincu et que c'est vraiment très beau. Alors, c'est donc Paris, I Was Glad, Gabrielli Consort et donc l'ensemble et ses musiciens players et c'est dirigé sous la baguette de Monsieur Paul McCrèche. Je pense que c'est enregistré par Signum, voici les renseignements. Nous allons passer à toute autre chose avec Saint-Saëns. Compositeur Saint-Saëns, je vous propose le concerto pour piano numéro 5, c'est la finale, avec deux musiciens formidables, père et le fils, Alexandre Kantorov au piano et Jean-Jacques Kantorov, son père chef d'orchestre. Alors ce CD comportant trois concertos de Saint-Saëns. Moi, j'ai eu un coup de foudre, vraiment un coup de foudre pour cette interprétation qui y a une précision, une énergie. Il y a plein de choses, vous allez voir, fluidité, virtuosité, énergie. Alors, c'est Alexandre. Alexandre, il a 22 ans. Et lui, alors vraiment, moi, il se joue des difficultés de ce concerto. Et il traverse cette interprétation et cette œuvre avec une maîtrise extraordinaire du toucher, une aisance, une impétuosité. Et voilà, je peux le comparer à un jongleur qui domine tout ça, du haut de sa jeunesse et de son talent. Et il a l'art de faire chanter son instrument, comme vous allez l'entendre, et donne à son interprétation mille couleurs. Bon, il faut parler, bien sûr, du duo père et fils qui font preuve d'un duo parfait. C'est formidable. Et moi, je pense que c'est sûrement aussi le secret, en partie, de cette interprétation que je pense Camille Saint-Saëns aurait sûrement appréciée. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne écoute pour ce concerto pour piano avec Alexandre Kantorov et son fils. Thank you. J'espère que vous aurez aimé mon choix du compositeur Saint-Saëns, concerto pour piano numéro 5. C'est donc la finale, interprétée par Alexandre Kantorov au piano et sous la baguette de son cher papa, Jean-Jacques Kantorov.
Le coup de cœur de Françoise.
Et maintenant, écoutez deux gros coups de cœur, et vous allez voir. Merveilleux, le Bellini, alors Norma Castadiva, chanté par Anita Cerchetti, et c'est édité par Eloquence. Vous avez donc écouté Norma Castadiva de Bellini, Anita Cerchetti, et édité par Eloquence. Et maintenant, un grand, grand coup de cœur aussi, un coup de cœur que tout le monde a toujours, pour Mozart bien entendu, c'est, je vous propose la symphonie numéro 38, Prague, Adagio Allegro.
Thank you.
Je vous ai proposé mon deuxième gros coup de cœur qui est Mozart, la symphonie numéro 38, Prague, Adagio Allegro. J'ai repéré aussi, parmi des tas de choses fort intéressantes, mais quelque chose qui m'a aussi bien intéressé, mais ce n'est pas la première fois. C'est Steve Reich et la musique aussi de ces six pupitres, alors les six pupitres comprenant vibraphone, percussion, violoncelle, piano, marimba. Donc c'est dans le sextet 4 moderato et c'est édité par Ecozone. C'est une musique bien entendu assez minimaliste, vous allez les entendre. Bon, la prise de son, je peux vous dire, est extraordinaire. On les entend comme s'ils étaient avec Sarah, tiens, dans la pièce à côté. Ben, c'est pas tout à fait vrai, mais on les entend parfaitement bien. Alors, moi, je pense, est-ce qu'il faut être vraiment préparé pour apprécier ce genre de composition ? Ben, vous pouvez pas me répondre, j'en sais rien, mais je pense que on aime ou on n'aime pas. Et c'est un peu comme les peintures modernes, les peintures classiques, tout ça. Moi, je pense qu'il faut être curieux de tout en musique. Il faut aussi considérer le travail, mais ce travail de ces musiciens qui donnent cette belle prestation sans le moindre fléchissement de tempo. C'est excessivement difficile, ni la moindre défaillance rythmique, tout en gardant... vous allez comprendre la même tension pour préserver cette énergie très présente et vivante que l'on ressent. Il faut aussi parler, mais ça on en a déjà parlé dans d'autres émissions, des effets polyrythmiques, en partie qui ont été inspirés au compositeur Steve Reich par les polyphonies emmagasinées lors d'un voyage en Afrique. On va parler de Steve Reich parce que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant et qui a trouvé quelque chose. Alors, cette musique minimaliste, c'est un courant de musique contemporaine qui est apparu dans les années 1960 aux États-Unis. Elle représente une part importante de la musique classique de ce pays, c'est très important. En France, le courant est fréquemment appelé musique répétitive, oui, et désigne plus spécifiquement l'ensemble des œuvres utilisant la répétition comme technique de composition. Les principaux compositeurs de musique minimaliste sont Jung, Terry, Riegler, Steve Reich, bien sûr, Philip Glass. Plus ou moins connus tous ces gens, et John Adams, bon, l'œuvre considérée comme la fondatrice du minimalisme, est Insee de Terry Riley. Bon, je me rappelle de ça, Insee de Terry Riley, qui était composé en 1964. La musique minimaliste est parfois désignée sous l'étiquette plus large de musique post-moderne. On peut dire que plus qu'un retour à la tonalité, le courant est surtout caractérisé par l'utilisation d'une pulsation régulière et la répétition de courts motifs évoluant lentement. Au-delà d'un mouvement de réaction au sérialisme, c'est un peu plus compliqué, bon. Alors dominée en Europe, la musique minimaliste marque l'émergence d'une musique américaine novatrice, déliée de ses attaches européennes. Les compositeurs minimalistes ont aussi opéré un retour vers plus d'émotions musicales au lieu de l'approche essentielle intellectuelle de la sérielle, ou l'approche conceptuelle de la musique expérimentale, telle que la pratique John Cage. Après des débuts difficiles, ça, parce que c'est hors des circuits, bien sûr, traditionnels de la musique classique, la musique minimaliste a acquis l'adhésion d'un certain public, venant parfois d'univers différents, comme le jazz, le rock, les musiques improvisées ou la musique électronique. La télévision et le cinéma ont utilisé abondamment cette musique, en particulier les œuvres de Philip Glass contribuant à sa diffusion jusque dans le grand public. Alors bien sûr, de violentes critiques se sont aussi exprimées de la part du monde musical envers le courant minimaliste, l'accusant de produire une musique de consommation superficielle et sans âme. Bon, ça, chacun s'est vu sur cette musique, effectivement, mais moi je trouve que c'est intéressant. Comment résumer le travail et le parcours de ce compositeur qui nous emmène dans une autre approche? C'est vrai, vous comprenez bien. Je pense quand même qu'il est intéressant d'en savoir plus pour vous, si c'est effectivement, sur ce musicien qui est philosophe et qui est hors du commun. Et bien sûr, allez sur Wikipédia. Donc, moi, je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que, c'est une grande musique aussi. C'est beaucoup d'énergie, de travail, d'attention pour produire quelque chose de complètement différent. Après, je pense que ça plaît ou ça intéresse. Je ne sais pas, mais je vous le propose. Bonne écoute! Alors, merci d'être resté jusqu'au bout de cette émission avec moi, surtout. Et puis, ce que je vous ai proposé sur Steve Reich et ses six pupitres, ça s'appelle ce CD, Sextet 4, Moderato, et c'est édité par Ecozone. Alors, je vais vous quitter maintenant. Nous nous retrouverons avec Thérèse sûrement le mois prochain. Elle était en vacances et elle nous a bien entendu manqué. Donc, je vous dis à bientôt avec nos nouveaux choix musicaux, chers auditeurs, pour vous. Et un petit clin d'œil à Dominique Morel qui est toujours à mes côtés pour préparer cette émission. À bientôt!
C'était Le Petit Monde Musical de Françoise et Thérèse.